Chapitre 21 Des inconvénients de la chirurgie psychique. Ici, je reprends le rapport de M. Le Camus. Aussitôt que Théophraste eut prononcé ces mots, j'entre dans les ténèbres rayonnantes de la mort. M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de Lanox fit un geste immense de son bras droit, se pencha sur le visage de mon ami et lui souffla impétueusement sur les paupières. Il lui dit « Réveille-toi, Théophraste Longuet !» Théophraste ne s'éveilla pas. Ses paupières restaient closes et son immobilité nous parut plus immobile encore. Et maintenant que sa bouche, sa pauvre bouche édentée, ne parlait plus, maintenant que ses lèvres étaient aussi closes que ses paupières, il nous parut avec terreur avoir suivi Cartouche dans les ténèbres rayonnantes de la mort. Sa pâleur de cadavre qui nous sembla, était-ce un effet de notre imagination, déjà tournée au vert, ses cheveux devenus subitement blancs, nous le montraient en réalité atrocement vieux, mais de la vieillesse si hâtivement acquise au fond des tombeaux, où quelques minutes de pourriture vieillissent davantage que 100 ans de vie. Était-il déjà mort? Se décomposait-il déjà? Il est évident que M. Le Camus, qui a de l'imagination et de la lecture, se laisse aller à l'une et au souvenir de l'autre. Il est hanté, là, par le cas de M. Valdemar. Et il a tort, car l'auteur de ces lignes, qui a pu interroger dernièrement M. de Lanox, a su que Théophraste n'a jamais, à aucun moment de cette opération, tourné au vert. M. de Lanox répétait ses grands gestes de fou sublime et un peu ridicule et lui ressoufflait sur les yeux à lui faire voler les cils et recommençait à crier « Théophraste Longuet, réveille-toi ! Réveille-toi, Théophraste Longuet !» Dans le moment que nous croyions bien que Théophraste Longuet ne se réveillerait jamais plus, il se réveilla. Il tourna les yeux vers nous en poussant un effrayant soupir et nous dit simplement « Oh, bonjour, Cartouche est mort !» M. de Lanox nous dit « Remercions Dieu, l'opération a réussi !» Et il recommença sa prière. « Au commencement, tu étais le silence, éon, source des éons !» Madame Longuet et moi, nous nous étions précipités sur Théophraste en remerciant Dieu du fond du cœur. Certes, l'opération avait été rude, et cependant nous nous félicitions que Théophraste s'en tira, en somme, avec un pot de teinture pour ses cheveux et un râtelier. Ce n'était pas acheté trop cher la mort de Cartouche. Nous lui dîmes de se lever et de nous suivre. Nous avions hâte de fuir cette maison de la rue de la Huchette, où il me semblait que nous étions depuis plus de 200 ans. Madame Longuet embrassa son mari et lui dit doucement, en le prenant sous le bras, « Allons, mon ami. »« Parlez plus fort, » dit Théophraste. « Je ne sais ce que j'ai dans les oreilles. Je suis quasi sourd et puis je ne puis plus remuer. » C'est que tu dois être un peu engourdi, mon chéri, depuis le temps que tu es tendu sans bouger sur ce lit de sangle, quoi d'étonnant à cela? Mais fais un effort, mon petit chat. Ne parlez plus fort, vous disent. Je remue encore les bras, mais je n'ai plus aucun moyen de remuer les jambes. Je veux les remuer, elles ne bougent pas, et puis j'ai des picotements dans les pieds. C'est des fourmis, mon petit ange. Mais secoue-toi vite, que nous rentrions chez nous. Nous n'avons rien mangé depuis ce matin, j'ai l'estomac dans les talons. Moi, dit Théophraste tristement, je ne sais ce que j'ai dans mes talons. Je ne sais plus si j'ai des talons. Ils sont peut-être dans mon estomac. Ensuite, Théophraste porta la main à sa bouche et dit, tiens, le dentiste est venu, m'avait endormi pour m'arranger mes dents. Qu'est-ce que vous avez fait de mes dents ? Chose curieuse, fait observer Monsieur Le Camus, Théophraste réveillé zézéyait et il n'avait pas zézéyé dans son sommeil après le départ précipité de ses dents. C'est sans doute que rien ne pouvait faire zézéyer Cartouche, ni la douleur, ni même l'absence des dents de Théophraste. Je répétais, « Ah, il faut partir !» Il répondit, « Évidemment, mais emportez-moi, car j'ai les jambes dans un état !» Monsieur de Lanox, que nous regardions, ne put retenir un sourd gémissement. Il eut enlevé le pantalon et les bottines de Théophraste en un tour de main, le caleçon fut ouvert avec des ciseaux, et les chaussettes elles-mêmes jonchèrent le carreau. Alors, oh alors, quel spectacle affreux, et quelle douleur nous étreignit à la vue des malheureux membres de mon ami. Les jambes et les pieds de Théophraste étaient en bouillie, la chair était arrachée par endroits, et en d'autres horriblement meurtrie. Les mains tremblantes de M. de Lanox écartaient les vêtements qui recouvraient le thorax de ce pauvre Théophraste, et là aussi nous vîmes au sein deux sanguinolentes taches noires. Les biceps que nous examinâmes portaient également les marques fraîches de l'épouvantable torture. L'expérience suivante a été faite souvent à la clinique du docteur Charcot. On endormait un sujet, on lui appliquait sur la peau du ventre un cercle de papier et on lui suggérait l'idée que ce cercle était un vésicatoire. Immédiatement, tous les effets du vésicatoire se produisaient. La peau rougissait et se soulevait en forme de cloque remplie d'eau. Ainsi, pour Théophraste, endormi du sommeil de l'hypnose et vivant la torture de Cartouche, tous les effets extérieurs de la torture se produisent et les chairs apparaissent en réalité meurtries. Et c'est le rêve qui a meurtri la réalité. Ceci ne prouve-t-il point qu'il n'y a qu'une chose qui est le rêve, c'est-à-dire l'idée ? À rapprocher de ce fait les stigmates apparus aux mains, aux pieds et aux flancs des saints et des martyrs. Théophraste considérait ses jambes et ses bras et ses seins avec curiosité. Madame Longuet s'abattit sur sa poitrine en sanglotant. Quant à moi, je fis un geste qui menaçait le destin et je courus chercher une voiture. Quand je revins, Madame Longuet pleurait toujours. Théophraste n'avait pas cessé de se plaindre de picotement aux jambes et demandait ce qui lui était arrivé pour qu'il lui fût impossible de les remuer et qu'elle lui apparut en un état aussi sanguinolent. Monsieur Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de Lanox, au lieu de répondre, était prosterné, le front dans la plus grande des humiliations. Ses mains étaient jointes, ses coudes étaient sur le carreau. Il disait, d'une voix lamentable, qu'entrecoupait un immense sanglot, « mon bien-aimé, j'ai cru que j'étais ton fils, ô mon bien-aimé. J'ai pris mon ombre pour la lumière, mon bien-aimé. Tu as précipité mon orgueil. Je ne suis qu'un peu de nuit au fond de l'abîme obscur, moi, l'homme de lumière. Et la nuit ne veut pas. Et j'ai voulu, moi, la nuit. Je ne suis qu'un fils ténébreux du silence, éon. » Source des éons. Et j'ai voulu parler, la vie, connaître la vie, posséder la vie, égaler la vie. Tentation, vertige de l'éternel abîme, mystère du ternaire. Trois, oui, les trois mondes sont un, et le monde est trois. C'était la vérité à Tyr, à Memphis, à Babylone. Un, deux, trois, actif, passif et réactif. Un et un font deux, deux est neutre. Mais oh mon bien-aimé, un et deux font douze. Un est Dieu, deux est la matière. Mettez la matière à côté de Dieu. Pythagore l'a dit, et vous avez douze, c'est-à-dire l'union. Mais qui donc, ici-bas, a osé prononcer ces mots, c'est-à-dire ? puis il sanglota encore à fendre l'âme. Cependant que Théophraste, sur son lit de sangle, disait « Je voudrais bien pour tiens m'en aller d'ici !» Chapitre 22 où Théophraste Longuet reprend goût à la vie et au timbre en caoutchouc. Il se distrait dans la fréquentation d'un boucher qui tue un veau tous les jours. Les os n'étaient pas brisés et c'était tout juste. Quant aux plaies, elles exigèrent 6 semaines seulement pour se cicatriser. Théophraste ne souffrait pas, mais il dut garder le lit jusqu'au moment où il reconquit l'usage de ses jambes, ce qui n'arriva qu'à la fin du 2e mois. Cependant, ses oreilles le tracassaient toujours un peu, et l'eau bouillante qui avait été versée avait cet effet de le rendre par moments tout à fait sourd. Pendant tout ce temps, il ne fit aucune allusion au passé. Je ne parle point de ce misérable passé qui se borne dans l'esprit de tous à ces quelques années qui se sont écoulées depuis notre dernière naissance terrestre, mais à l'autre passé, à celui dont la réapparition avait jeté un trouble si absolu dans la vie de cet homme. Et pour M. Le Camus, comme pour Mme Longuet, comme pour M. Eliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox, lequel était venu à son chevet rue Gérando presque tous les jours, Cartouche était mort, bien mort. L'opération avait été extrêmement douloureuse, tellement qu'on avait pu redouter que Théophraste ne restât estropié jusqu'à la fin des derniers jours de sa vie actuelle. Mais à tout prendre, elle avait merveilleusement réussi. M. de la Nox ne cessait d'en remercier Léon, source des éons. Théophraste, à qui on avait posé les dents nécessaires, ne zézayait plus. Enfin, il songeait à se remettre dans les affaires. Il avait quitté bien jeune ses timbres en caoutchouc. À 41 ans, il avait pris sa retraite, à la suite de la découverte qu'il venait de faire d'un nouveau timbre en caoutchouc, qui marquait non seulement l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, mais encore le temps qu'il faisait, ce qui, paraît-il, était de la dernière importance pour certaines industries. Son esprit était à nouveau occupé par une innovation incroyable qui devait bouleverser toutes les idées qu'on s'était faites jusqu'à ce jour sur les timbres en caoutchouc. Cette innovation était basée sur les derniers progrès de la cinématographie. Que vous dirais-je de plus ? Quand il put marcher, il était redevenu si naturel que Mme Longuet et M. Le Camus purent croire que leur malheur à tous trois avait fatigué le destin. Ah, ce que c'est que le cœur des hommes ! Le moindre nuage qui passe à l'horizon les précipite à un désespoir hâtif, et ils ne croient plus au jour. Et la moindre lueur qui monte dans le ciel obscur, si, est une lueur d'espoir, et ils ne croient plus à la nuit. Théophraste se levait de bonne heure, et après avoir déjeuné d'une tasse de chocolat et de rôti beurré, allait faire un petit tour sur les boulevards extérieurs. Il essayait ses jambes. Ils retrouvaient leur ancienne élasticité. Ils s'arrêtaient aux boutiques, regardaient en détail le spectacle de la rue. Adolphe, dans les commencements de loin, le suivait. Il ne remarquait rien d'anormal dans la façon d'être de Théophraste, et dans son rapport à M. Delannoy, se contenta de lui signaler ce fait vraiment sans importance d'une station un peu prolongée devant l'étal d'un boucher. Si cette station n'avait pas été quotidienne, elle eût passé inaperçue, même aux yeux avertis d'Adolphe. Théophraste, ses mains jouant derrière lui avec son ombrelle verte, regardait la viande saignante. Il avait aussi quelques petites conversations avec le boucher, un fort gaillard carré les épaules, et qui avait toujours le mot pour rire. Un jour que M. Le Camus estimait que Théophraste avait passé beaucoup de son temps à l'étal du boucher, il le rejoignit comme par hasard et le trouva avec le patron occupé à décorer le papillote de papier frisé, la viande toute fraîche. C'était bien inoffensif. Ainsi en jugea du reste M. de Lanox, qui écrivit en marge du rapport de M. Le Camus: « Il peut regarder la viande saignante à l'étal du boucher. Il est bon de le laisser voir rouge de temps en temps. C'est la fin de la crise et ça ne fait de mal à personne. » Cette boucherie était une petite boucherie qui avait sa spécialité. Il y a à Paris des boucheries où l'on ne vend que du cheval. M. Oudry vendait surtout, entre autres viandes communes, une exceptionnelle viande de veau. Or, quelle viande de veau! Mais où M. Oudry faisait-il nourrir ses veaux? Quel régime les veaux de M. Oudry suivaient-ils avant que de se montrer dans tous leurs avantages à son étal? D'où venaient les veaux de M. Oudry? Quant à moi, je crois bien que l'excellence de la viande de veau de M. Oudry tenait moins au traitement que subissaient les veaux vivants qu'à la façon dont ils les faisaient trépasser. Tous les bouchers à Paris reçoivent leur viande des abattoirs. M. Oudry, lui, recevait son veau vivant et tuait lui-même à sa manière. Je dis qu'il recevait son veau, car c'est un veau que M. Oudry tuait tous les jours que Dieu fait. Il ne tenait pas à vendre en grande quantité, mais il vendait cher, et il avait raison, car son mode de tuer, ou plutôt d'énerver la viande, faisait que celle-ci était tout de suite, et à ne s'y jamais tromper, appréciée des amateurs. Il ne se contentait pas de ne point assommer son veau, ainsi qu'on fait aux abattoirs. Il le saignait à la mode juive, avec un grand coutelas qu'il appelait le Seigneur, sans s'y reprendre jamais à deux fois, c'est-à-dire qu'il lui coupait la gorge sans revenir dans la blessure. En outre, il ne manquait point de rejeter un veau dès qu'il était trèfle, c'est-à-dire dès qu'il avait quelque petite maladie de la fraissure. Enfin, il y avait la façon dans tout cela. M. Oudry avait, dans le plus grand mystère, expliqué son cas de sa viande de veau à M. Théophraste Longuet, qui y avait pris un évident plaisir. Si bien que Théophraste, après avoir prêté l'oreille à la théorie devant l'étal, avait manifesté le désir d'assister à une leçon de pratique. Dans une petite cour adjacente à l'étal, M. Oudry avait un abattoir clandestin. Certains matins, Théophraste, qui était survenu de meilleure heure que de coutume, trouva son homme à l'abattoir avec son veau. Le boucher pria Théophraste d'entrer, et les portes se refermèrent sur eux. « Je m'enferme tous les jours ainsi avec un veau vivant, » dit M. Oudry, « et quand les portes de l'abattoir se rouvrent, le veau est mort. Je ne perds pas mon temps. » J'ai opéré en 25 minutes. Théophraste le félicita. Il lui demanda quelques explications, s'intéressa à tous les objets qui frappèrent son regard. Le soufflet avec ses grands bras attira son attention. Il demanda comment cet instrument s'appelait et on lui répondit que c'était un soufflet. Il vit aussi le treuil. Il apprit que cette forte barre de chêne munie de chevilles qui était suspendue au treuil s'appelait tinet. Il admira la solidité de ce brancard, également de chêne qui a nom étou. Une hachette qui traînait fut appelée feuille. Mais ce qui l'intéressa davantage, ce fut suspendue au mur la boutique. Dans cette boutique qui était une sorte de sacoche pour coutelas, il vit d'abord le Seigneur et se complut à passer tout doucement son index sur la lame longue, forte et affilée. Et puis ce fut le couteau, plus petit, dénommé moutonnier, occupé d'ordinaire à dépecer le mouton, comme son nom l'indique, mais qui servait là pour certaines parties du veau. Puis une autre petite lame, dont la lancette, pour fleurer le veau. Fleurer le veau consiste à faire des légers dessins artistiques du bout de la lame sur la peau du veau une fois qu'il est blanchi. Ce jour-là, comme je vous le dis, l'instruction de M. Théophraste Longuet porta sur les outils. Mais il fut dans la nécessité soudaine d'interrompre cette leçon à cause de ses oreilles qui, une fois de plus, n'entendaient plus. Cette petite infirmité passagère était bien désagréable. Mais les jours suivants, ayant recouvré toute sa faculté auditive, il assista à toute l'opération, dans les détails de laquelle il entra sans trop de répugnance. Il se contentait de dire tous les jours, en s'en allant, en manière de plaisanterie, « Vous tuez tous les jours un veau, vous devriez vous méfier. Vous verrez que ça finira par se savoir chez les veaux. » Théophraste n'était pas paresseux. Un jour que le jeune néophyte qui aidait M. Oudraille à attacher le veau s'était attardé à quelques flâneries, il attacha lui-même la patte de derrière du veau, cependant qu'avec ses longes, M. Oudraille attachait les deux pattes de devant au même étou. Une patte restait libre. C'était la manière. M. Oudraille s'approcha de la gorge du veau avec le seigneur. Dire, fit-il avec mépris, dire qu'il y en a qui les assomment, ça marque toujours la tête. Évidemment, confirma Théophraste, quand on l'assomme, ça doit marquer la tête. Il se forme un dépôt de sang, c'est un crime. Oui, 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 c'est un crime, on ne tue pas une bête en lui fichant un dépôt de sang. Tenez avec le Seigneur, il ne faut qu'un coup et un coup. Ah, un coup et un coup, comme cela. Ah, comme cela, hein. On dirait que j'ai été bouché chez les Juifs. Le sang pisse, regardez les yeux du veau pendant que le sang pisse, dit Théophraste. Ses yeux sont morts. Ils sont morts, mais ils vous regardent. Eh bien, vous n'avez pas peur des yeux d'un veau mort qui vous regarde? Félicitations, monsieur Oudraille. Félicitations. Vous voulez rire? Ah non, permettez. C'est vous qui riez. Moi, je me garde à carreau. Le veau le voit bien. Tant pis, monsieur Oudraille, tant pis. Rira bien qui rira le dernier. Mais déjà, M. Oudraille, qui n'avait pas de temps à perdre, brochait le veau avec son fusil, près du nombril, et enfonçait dans l'incision le bout de son soufflet, et soufflait. Regardez comme il gonfle bien. Il ne sera pas difficile à blanchir. Moi, je le souffle toujours. Sans ça, j'estime que c'est du mauvais travail. Du côté d'Orléans, on ne le soufflait pas autrefois, mais ils y sont revenus. « Il faut reconnaître ses erreurs, » dit Théophraste. M. Oudraille finit de décoller la tête et coupa les quatre pieds au joint. Puis d'un grand coup de son couteau, il pourfendit l'animal de haut en bas et en croix d'un jarret à l'autre. Puis il le blanchit, c'est-à-dire qu'il enleva le cuir de dessus le ventre et dessina sur la peau de petites choses aimables avec sa lancette. Puis quand le veau fut fleuri, M. Oudraille lui ouvrit le ventre complètement, lui trancha le quartier de derrière et dit « C'est le cul de veau !»« Ah, pas mauvais, un casserole avec des carottes !» dit Théophraste. Et Théophraste aida M. Oudraille à attacher les pattes de derrière au tinet qui fut issu à l'aide du treuil. Le veau était suspendu. Le boucher le vida de ses boyaux, de la fraissure, du riz. Il souffla la fraissure, ayant mis le cornet dans sa bouche. Les poumons étaient roses et volumineux. Théophraste félicita M. Oudraille sur l'excellente santé du veau. Il examina également le cœur et la rate et dit « Bonne constitution, bonne constitution. Il était fait pour vivre 100 ans. » C'est un pauvre malheureux veau. Pendant que M. Oudraille dépouillait le veau de ce qui lui restait de cuir dans le dos et l'habillait d'une belle nappe blanche pour l'étal, Théophraste avait fait friser la fraise dans l'eau bouillante, puis il demanda à son ami le boucher de lui laisser la toilette de la tête et des quatre pieds. Il y avait près de là de l'eau très chaude dans une chaudière. Il y jeta la tête et les quatre pieds. Puis il reprit la tête et, au-dessus de la chaudière, en gratta avec force le poêle, l'échauda, la raffina et prit tout son temps pour lui nettoyer les oreilles. Oh, les oreilles, fit-il avec une joie d'ange, oh, les oreilles, ça me connaît. Et tout de suite, il acheta la tête de veau tout entière. Monsieur de Houdry voulait lui faire porter à domicile, mais il refusa, et il la disposa avec soin au fond de son ombrelle verte, retournée, qui lui servit de panier. « Au revoir, monsieur Houdry, dit-il. Au revoir. J'emporte ma tête de veau, mais je vous ai laissé les yeux. J'aime pas que des yeux de veau me regardent comme ces yeux-là vous ont regardé tout à l'heure. Les yeux de veau morts, c'est méchant. Oh, vous riez, monsieur Houdry, c'est votre affaire. Félicitations, monsieur Houdry, félicitations. Mais ça finira par se savoir chez les veaux. » Et il rentra chez lui. Quand il se montra avec son ombrelle verte et sa tête de veau, Adolphe et Marceline se sourirent. « Ils s'amusent, » dit Marceline. « Oh, ce sont des jeux innocents, » ajouta Adolphe. Chapitre 23. La partie de domino, la lecture des journaux après dîner. Dans le cabinet où naguère encore ronronnait le petit chat violet, on avait fait le lit de M. Le Camus. M. Longuet occupait seul la chambre conjugale. Marceline habitait un petit lit de fer volant dans le salon. Ce petit lit n'était pas un embarras dans la journée, mais un ornement, car replié et recouvert d'une housse à fleurs, il supportait la corbeille de Sarreguemines, raccommodée depuis la nuit funeste où elle tomba en même temps que les oreilles de M. Petitot. Après le dîner, on faisait une partie de domino devant les tasses de café bouillant. M. Le Camus, qui était normand, s'amusait à des termes de terroir. Quand il posait le double six, il s'écriait « V'là le douve nègre !» Et quand il posait un cinq, il s'écriait « Un quinte, un chien, ça mord !» Quand il posait un as, il s'écriait « L'astico, amorce !» Le 3 indiquait, cité à cette phrase, « Si t'as du cœur, pose une queue de cochon !» Le numéro 3, en effet, la forme enroulée d'une petite queue de cochon. Il appelait le 2 le « gueux ». Le 4 était flétri par lui de ce mot « Oh, la cato !» Enfin, il n'aurait pas pu poser un blanc sans annoncer « La blanchisseuse !» Marceline s'amusait beaucoup de ces exclamations patoises, et elle était toujours prête à jouer au domino. Théophraste perdait souvent, non point qu'il ignorât le jeu, mais comme le pied de Marceline, sous la table, indiquait au pied d'Adolphe par des pressions réitérées le point qu'il fallait jouer pour gagner, le sort s'en trouvait tout désemparé. Mais c'était un plaisir que de voir perdre Théophraste, attendu qu'il avait au jeu le plus désagréable caractère du monde. Quand il avait perdu, il boudait. Le soir qui nous occupe, Théophraste venait, ainsi que presque tous les autres soirs, de perdre, et le front méchant s'était plongé en la lecture des gazettes. Il affectionnait par-dessus tout les filets politiques. Il avait des opinions arrêtées. Les barrières qui arrêtaient ses opinions étaient au nord le despotisme des tyrans et au sud l'utopie socialiste. Entre l'utopie socialiste et le despotisme des tyrans, il comprenait tout, disait-il, excepté cependant que l'on touchât à l'armée. Il répétait souvent « Faut pas toucher à l'armée !» C'était un brave homme. Il lut donc le filet politique sans le commenter, tout haut, cependant parce qu'il boudait. Et puis ses yeux furent attirés par ce titre « Cartouche n'est donc pas mort ?» Il ne put s'empêcher de sourire, tant il trouvait cette hypothèse absurde. Et puis il parcourut les premières lignes de l'article et laissa échapper ce mot « Mais étrange !» Et cet autre « Bizarre !» Et cet autre Surprenant, mais sans émotion particulière. Il jugea qu'il était temps de finir de bouder et il dit « Mon cher Adolphe, tu n'as pas lu cet article intitulé « Cartouche n'est donc pas mort ?» C'est un étrange, bizarre et surprenant article. » Adolphe et Marceline ne purent retenir un mouvement et se regardèrent avec inquiétude. Théophraste lut « Cartouche n'est donc pas mort. Depuis quelques jours, les agents de la sûreté, dans le plus grand mystère que nous avons du reste pénétré, ne s'occupent plus que d'une série de crimes bizarres dont on s'est efforcé de cacher les côtés les plus curieux au public. Ces crimes et la façon dont leur auteur échappe aux agents dans le moment qu'ils croient le tenir rappellent point par point la manière de faire du célèbre Cartouche. S'il ne s'agissait d'une chose aussi répréhensible qu'une série de crimes, on pourrait même admirer l'art parfait avec lequel le modèle est imité. Comme nous disait hier un fonctionnaire supérieur du service de la sûreté, que nous ne nommerons pas, car il nous a recommandé le secret, ces cartouches tout crachées, si bien que les agents eux-mêmes n'appellent plus le mystérieux bandit sur la piste duquel ils se sont trouvés quelquefois que Cartouche. Du reste, l'administration, fort mystérieusement, mais fort intelligemment, pour une fois, nous ne ferons aucune difficulté de le constater, a fait remettre à trois d'entre eux un précis de l'histoire de Cartouche, rédigé par messieurs les bibliothécaires de la Nationale. Elle a pensé subtilement que l'histoire de Cartouche leur serait utile non seulement dans la tâche précise qui consiste aujourd'hui pour eux à prévenir les excentricités criminelles du nouveau Cartouche et à arrêter le nouveau Cartouche lui-même, mais encore il lui a semblé que l'histoire de Cartouche doit faire partie de l'instruction générale de tous les agents de police ou de sûreté. Enfin, le bruit nous est venu que M. Lépine, préfet de police, de son côté, a ordonné que l'on consacrerait quelques cours du soir à la préfecture à l'histoire authentique de l'illustre bandit. « Que dites-vous de cela ?» demanda Théophraste avec une grande béatitude amusée. « Oh, la farce est joyeuse, et les journalistes sont d'admirables cocos de nous sortir de Paris bourde. » Adolphe ni Marceline ne souriaient. Marceline avait un léger tremblement dans la voix quand elle pria Théophraste de continuer. Il reprit paisiblement le cours de sa lecture. Le premier crime du nouveau Cartouche, celui du moins dont la sûreté eut tout d'abord à s'occuper, ne présente point cette horreur que nous retrouvons dans quelques autres. C'est un crime galant. Disons tout de suite que tous les crimes dont nous avons connaissance et que l'on attribue au nouveau Cartouche ont été accomplis depuis 15 jours au plus, et toujours de 11 heures du soir à 4 heures du matin. Madame Longuet s'était levée toute pâle. Monsieur Le Camus la fit se rasseoir assez brutalement, et un serrement furtif de sa main lui commanda de se taire. Théophraste dit « Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur nouveau Cartouche? Moi, je connais que l'ancien. Enfin, voyons le crime galant. » Et il lut, toujours de plus en plus calme. Une femme, une jolie femme, très connue à Paris, où son salon littéraire est couru de tous ceux qui s'occupent avec élégance des choses du spiritisme, nous croyons ainsi l'avoir suffisamment désignée sans cependant la compromettre, une femme, une jolie femme, procédait vers 1 heure du matin à sa toilette de nuit et s'apprêtait à prendre un repos bien gagné, à la suite des fatigues qui lui étaient échues ce soir-là avec les tracas d'une conférence à domicile par le plus illustre de nos pneumatiques, quand soudain la porte-fenêtre de son balcon s'ouvrit et un homme d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, jeune encore et extrêmement vigoureux, non, ce dernier détail est dans le rapport de la police, mais la chevelure entièrement blanche, se précipita à ses pieds. Il avait dans la maison un revolver au brillant nickel. « Madame, dit-il à cette femme épouvantée, remettez vos esprits. je ne vous veux point de mal. Considérez le plus humble de vos serviteurs. Je m'appelle Louis-Dominique Cartouche, et je n'ai d'autre ambition que de souper à vos côtés. Par les tripes de Madame de Falaris, j'ai une faim de tous les diables. » Et il se prit à rire. Madame de B, appelons-la Madame de B, crut avoir affaire à un fou, mais ce n'était qu'un homme déterminé à souper avec Madame de B, dont il disait apprécier depuis longtemps la grâce particulière. Et cet homme était beaucoup plus dangereux qu'un fou, car il fallait lui céder à cause du revolver au brillant nickel. « Vous allez, dit l'homme, appelez vos gens et leur commandez de vous apporter ici un excellent souper. Ne leur donnez aucune explication qui pourrait nous causer quelque désagrément, car alors vous êtes une femme morte. » Madame de B prit son parti, car elle est brave et d'un esprit assez élevé pour faire face aux plus inattendues aventures. Elle sonna sa femme de chambre, et un quart d'heure plus tard, l'homme aux cheveux blancs et Madame de B étaient assis devant un encas fort convenable et les meilleurs habits du monde. Le souper se prolongea, et l'homme, paraît-il, car nous ne voulons rien affirmer quant à ce point si intéressant mais un peu scabreux de cette véridique histoire, l'homme ne redescendit par le chemin du balcon qu'au second feu de l'aurore. La belle Madame de B n'en est pourtant point un souper près, et certes, elle ne se fut point plainte de ce souper forcé qu'elle avait fini par partager de bonne grâce, si elle n'avait été dans la nécessité de compter sur l'aventure au commissaire de police. Et voici dans quelles circonstances. Le commissaire se fit quelques jours plus tard annoncer chez Madame de B. Il lui dit que l'anneau qu'elle portait au doigt et sur lequel brillait un diamant magnifique était la propriété de Mademoiselle Émilienne de Besançon. Qu'elle en ignorait sans doute, elle, Madame de B, la provenance, qu'on lui en avait fait cadeau, bien certainement. Mais Mademoiselle Émilienne de Besançon, qui avait aperçu la veille, dans une vente de charité, ce diamant au doigt de Madame de B, le reconnaissait formellement comme sien. Elle en avait fourni du reste toute preuve, et ce diamant avait une monture tout à fait unique, qui ne pouvait laisser de doute. Madame de B se troubla infiniment et dut conter l'aventure qui lui était survenue. Elle parla de l'inconnu, du balcon, du souper et du reste, c'est-à-dire de la reconnaissance que cet inconnu lui avait montrée de son souper en lui passant au doigt ce diamant magnifique qu'il tenait, dit-il, d'une femme qu'il avait beaucoup aimée, mais qui était morte depuis quelque temps, de Madame de Falaris. Madame de B ne pouvait être soupçonnée. Elle fournit une preuve, le revolver au brillant nickel que l'inconnu avait laissé sur la table de nuit. Enfin, elle pria également le commissaire de police de faire reprendre chez elle 100 bouteilles de champagne de premier choix que l'inconnu lui avait expédiées dès le lendemain de cette exceptionnelle nuit, sous le prétexte que son souper avait été exquis, mais que le champagne seul avait laissé à désirer. Elle craignait que, comme l'anneau, le champagne eût été volé. Le commissaire quitta la belle Madame de Bitigny, tout rêveur. Le nom nous échappe en toutes lettres, nous ne le rattraperons point. Rien n'eût pu faire que demain il ne fût dans toutes les bouches, car tout le monde va s'occuper désormais du nouveau cartouche. Cette petite aventure, qui est la moindre de celles que nous avons à conter, est la reproduction quasi fidèle de ce qui s'est passé dans la nuit du 13 juillet 1721 chez Madame la maréchale de Boufflers. Elle procédait elle aussi à sa toilette, et le jeune homme qui survint par le balcon n'avait pas dans la main de revolver au brillant nickel, mais il portait à la ceinture 6 pistolets anglais. Il demanda à souper après s'être présenté comme Louis-Dominique Cartouche, et la veuve de Louis-François, duc de Boufflers, père et maréchal de France, héros de Lille et de Malplaquet, soupa avec Cartouche et Bafoy fort avant dans la nuit. Cartouche ne se plaignit que du champagne et Madame de Boufflers en reçut 100 bouteilles le lendemain. Il les avait fait prendre par son sommelier Patapon dans les caves d'un gros financier. À quelque temps de là, une des bandes de Cartouche arrêtait la nuit, dans une rue de Paris, un équipage. Cartouche se pencha dans la voiture pour reconnaître les visages. C'était Madame la maréchale de Boufflers. Il se retourna vers ses gens. « Laissez passer librement aujourd'hui et toujours, Madame la maréchale de Boufflers, » ordonna-t-il d'une voix retentissante. Et il salua la maréchale fort bas, après lui avoir glissé au doigt un diamant magnifique qu'il avait préalablement volé à Madame de Falaris. Madame de Falaris ne le revit jamais. Et maintenant, passons au crime de la rue du Bac. Chapitre 24. Madame Théophraste Longuet demande à M. Longuet ce qu'est devenu ce revolver au brillant nickel. Et M. Longuet répond qu'il n'en sait rien. M. Longuet continue sa lecture. Marceline s'était levée autant pour cacher son émotion que pour constater que le revolver au brillant nickel ne se trouvait plus dans le tiroir de la table de nuit. Quand elle fut de retour dans la salle à manger, M. Longuet lui demanda la raison de son trouble. Marceline répondit que le revolver n'était plus dans le tiroir de la table de nuit. Théophraste lui conseilla de se calmer et déclara sur un ton sans réplique que puisque le revolver n'était plus dans le tiroir de la table de nuit, il devait être ailleurs et que cela n'avait aucune importance. « Nous allons donc nous entretenir, dit-il, avec ce monsieur le journaliste, du crime de la rue du Bac. L'histoire de la Madame de Bitigny n'est point faite pour nous décourager. C'est un homme renseigné qui a écrit cela. Cependant, j'aurais à relever dans sa narration quelques petites inexactitudes et quelques omissions qui sont après tout excusables. Ainsi, Madame de Bitigny, d'après ce monsieur le journaliste, aurait été victime, après le souper, des exigences amoureuses de l'homme aux cheveux blancs. Mais c'est là une erreur que je ne saurais laisser se propager, ma réputation en souffrirait. Quand je me présentais à Madame le Maréchal de Boufflers le 13 juillet 1721, je n'avais d'autre intention que de souper. Ces messieurs les historiens racontent que je fis subir les derniers outrages à Madame la maréchale de Boufflers. Mais ces messieurs les historiens sont des sots. J'ai beaucoup aimé Madame la maréchale à cause de son esprit, et nous eûmes ainsi le commerce le plus galant, mais aussi le plus honnête. Que messieurs les historiens réfléchissent un peu, et qu'ils étudient les dates. Ils apprendront que Madame la maréchale avait en 1721 dépassé la soixantaine. Et vraiment, j'ose dire que Cartouche avait d'autres morceaux à se mettre sous la dent. J'admets cependant que Madame la maréchale, malgré sa soixantaine, était d'un esprit si éveillé que nous passâmes en conversation la nuit la plus chaude du monde. Après, le diable n'y eut pas trouvé son compte. Quant à Madame de Bitigny, oh, c'est une autre affaire. Madame de Bitigny est jeune et son ardeur est telle qu'il est bien difficile de lui résister. Moi, je n'y suis pour rien. Moi, je lui demandais qu'à souper, le reste ne me regarde pas. Théophraste, disant ceci, agitait l'index de la main droite avec autorité, et ce n'est ni Marceline ni Adolphe qui eussent osé le contredire. Marceline et Adolphe, oubliant toute prudence, se serraient les mains avec une émotion communicative. Théophraste reprit le journal. L'histoire de la rue du Bac est beaucoup plus simple et plus rapide. Le préfet de police avait reçu un billet ainsi conçu. « Si tu l'oses, viens me trouver. Je suis toujours chez Bertrand, au cabaret de la rue du Bac. » C'était signé Cartouche. La chose se présentait, d'après l'histoire de Madame de Bitigny. Le préfet de police dressa l'oreille et ses plans. Le soir même, à minuit moins un quart, une demi-douzaine de policiers envahissaient le cabaret de la rue du Bac. Ils furent reçus à coups de chaise par un homme d'une force merveilleuse, encore jeune, dont les cheveux étaient tout blancs. Trois hommes restèrent sur le carreau, et les trois autres n'eurent que le temps de tirer dans la rue les trois corandoleries de leurs camarades pour qu'ils ne fussent point consumés par un incendie qu'avait allumé au premier étage l'homme aux cheveux blancs. L'homme se sauva par les toits en sautant d'un toit à l'autre, au-dessus d'une courette étroite, mais formant une sorte de puits de plus de 10 mètres de hauteur. Parenthèse. Cartouche était le plus habile homme de son temps pour sauter sur les toits à gouttières et corniches. Il usait les cheminées avec une science de ramoneur. Bondir d'un toit à l'autre, au-dessus des cours et même des rues, fut longtemps un plaisir nocturne de gentilhomme. Les rois s'y essayèrent. Charles IX n'avait pas son pareil dans la partie. Fin. Il y avait de quoi se rompre 10 fois le coup. Ah ah, interrompit Théophraste, voilà qui me plaît, 3 hommes sur le carreau. J'ai été moins heureux rue du Bac l'autre siècle, car je laissais là 9 de mes lieutenants qui furent arrêtés malgré le massacre des troupes policières. Je crus tout perdu, mais il faut jamais désespérer de la Providence. Le nouveau Cartouche, continua-t-il après avoir repris son journal, parmi le silence effaré de M. Le Camus et de Mme Longuet, le nouveau Cartouche, oh, sont-ils assez stupides de l'appeler le nouveau Cartouche, a fait des siennes rue Guénégaud. Il y a là une sorte de voûte passage que traverse une planche. On a trouvé, sous cette planche, il y a quelques jours, le corps d'un jeune polytechnicien. Il s'agit ici de la mort de M. de Barlinoldi, dont le mystère a si fort intrigué la presse. Ce que la police n'a confié à personne, c'est que sur la tunique de ce polytechnicien était épinglée une petite carte où l'on avait écrit au crayon « Nous nous reverrons dans l'autre monde, M. de Traneuse. » Ceci est encore à n'en point douter un crime du nouveau Cartouche, car l'ancien... « Bon, il faut être bête !» s'écria Théophraste, comme un journaliste pour s'imaginer qu'il y a 2 cartouches. Car l'ancien a en effet à cette place assassiné un officier ingénieur nommé Monsieur de Traneuse. Cartouche l'avait assommé d'un coup de canne derrière la tête et le polytechnicien a eu le crâne fracassé par derrière avec un objet contondant. Théophraste se livra à quelques commentaires. Ils disent aujourd'hui objet contondant. Objet contondant, bon, cela sonne bien. Objet contondant me plaît. Vous faites une drôle de tête, dit-il à Marceline et à Adolphe, et vous voilà serrés l'un contre l'autre comme si vous redoutiez une même catastrophe. Vous avez bien tort de vous faire de la bile pour quelques méchantes plaisanteries. Je profite de l'occasion, mon cher Adolphe, pour t'expliquer la joie que j'ai à fréquenter la rue Guénégaud. Cette histoire de M. de Traneuse fut pour moi l'origine d'une des plus jolies farces que je jouais aux bouches de M. d'Argenson. À la suite de cette exécution de M. de Traneuse, qui s'était permis sur mon compte des propos fort déplacés, je fus poursuivi par 2 patrouilles du guet qui m'enveloppèrent et rendirent toute résistance impossible. Mais ils ignoraient que j'étais Cartouche et se contentèrent de me conduire au Fort l'Évêque, qui était la prison la moins sévère de Paris, où l'on enfermait les dettiers, les comédiens incivils et les gens qui n'avaient pas payé l'amende. Ils surent seulement qu'ils avaient pris Cartouche le 10 janvier. Mais le 9 au soir, Cartouche s'était évadé et reprenait la direction de sa police. Il était temps car tout allait de travers dans les rues de Paris. « Ma chère Marceline, mon cher Adolphe, vous avez des mines d'enterrement. Cet article ne manque cependant point d'un certain sel. J'ai cru tout d'abord à une facétie de folliculaire, mais je vois bien que c'est très sérieux, croyez-moi. Et attendez l'histoire du veau. Nous n'en sommes encore qu'à l'affaire des petits Augustins. Écoutez, Théophraste, qui avait ramassé son journal, assujettit ses besicles d'or et reprit. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette incroyable aventure, c'est que plusieurs fois, depuis 8 jours, on a été sur le point de prendre le cartouche moderne et qui s'est toujours évadé ainsi que l'autre par les cheminées. C'est ainsi que l'histoire nous apprend que le vrai cartouche, le 11 juin 1721, eut le dessein de mettre à sac l'hôtel des Marais, rue des Petits Augustins. C'est un de ses hommes, le Ratichon, qui lui avait indiqué le coup à faire. Mais Cartouche et le Ratichon avaient été mis dedans par la police. Sitôt que Cartouche fut dans la maison, les archers accoururent et la place fut investie. Lui, tranquillement, fit fermer les portes des salons et éteindre les lumières, se déshabilla, grimpa dans la cheminée, descendit par une autre cheminée dans la cuisine où il trouva un marmiton, tua le marmiton, se déguisa avec les habits du mort, sortit enfin de l'hôtel, mettant à mal de 2 coups de pistolet 2 archers qui lui demandaient des nouvelles de Cartouche. Eh bien, que direz-vous quand vous saurez que notre Cartouche, traqué avant-hier dans une pâtisserie du quartier des Augustins, s'est échappé par la cheminée, après avoir revêtu par-dessus ses effets, qu'il désirait sans doute ne point salir, une blouse de pâtissier qui a été retrouvée sur les toits, ainsi que le pantalon du même pâtissier. Quant au pâtissier, on l'a retrouvé à moitié fondu dans son four. Mais avant de l'y mettre aux précautions humanitaires, le cartouche moderne l'avait préalablement assassiné. Ici, Théophraste s'interrompit encore. « Préalablement ! » s'écria-t-il, « préalablement ! Ah, ces journalistes sont épatants ! Je l'avais préalablement assassiné. Mais pourquoi fuyez-vous ainsi dans les coins ? Est-ce que je vous fais peur ? Voyons, mon cher Adolphe, ma chère Marceline, un peu de sang-froid. Vous en avez besoin pour l'histoire du veau. »